VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du vendredi 16 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que des gens ont planifié et coordonné les troubles qui ont fait 212 morts. Le Niger se dote d'un centre d'entraînement de forces spéciales anti-djihadistes. Au Cameroun, l'autorité a affirmé que les séparatistes anglophones se déguisent en uniforme de l'armée pour infiltrer les villages et lancer des attaques. Au moins 126 morts en Europe après des intempéries dévastatrices. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa déclare que les troubles et les pillages ont été provoqués, planifiés et coordonnés. Il a fait ses accusations à Durban, dans le KwaZulu-Natal. Les violences ont fait 212 morts en une semaine. Abdulrahman Dia.
Le chef de l'État sud-africain a promis de poursuivre ceux qui, selon lui, sont à l'origine des violences. Nous allons les poursuivre. Nous en avons identifié un bon nombre. Nous ne permettrons pas l'anarchie et le chaos dans le pays, a-t-il ajouté, alors que la police enquête sur 12 personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violence de ces derniers jours. C'était la première visite du président Ramaphosa sur le terrain depuis le début de cette crise, une des plus sévères jamais traversées par le pays depuis l'avènement de la démocratie post-apartheid. La veille, le gouvernement avait annoncé qu'une de ces personnes avait déjà été arrêtée et la surveillance a été accrue sur les 11 autres, dénonçant un sabotage économique. Les premiers incidents ont éclaté la semaine dernière au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Ils se sont ensuite étendus sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid.
Le Niger a inauguré jeudi à Tilia, dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Mali, un centre d'entraînement de ses forces spéciales pour lutter contre les groupes djihadistes. Les détails avec Rosine Mounezer.
Le centre pour former des forces spéciales nigériennes a vu le jour grâce au soutien de l'Allemagne. L'ambassadeur d'Allemagne au Niger, Hermann Nicolai, et plusieurs autorités militaires dont le ministre de la Défense étaient présents lors des cérémonies d'inauguration. Selon le ministre de la Défense, la création de ce centre s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des unités de commandement des opérations spéciales. Face à l'insécurité grandissante au Sahel, les forces armées nigériennes doivent s'adapter perpétuellement aux exigences sécuritaires. Le centre d'entraînement est un projet phare. Le Niger l'avait proposé et nous, par conviction, nous avons soutenu ce plan, a déclaré l'ambassadeur allemand. Dans sa lutte contre les groupes djihadistes armés, le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Le Niger a aussi décidé de porter les effectifs de son armée de 25 000 hommes à au moins 50 000 dans les 5 prochaines années.
Amnesty International a accusé l'Éthiopie d'avoir arbitrairement arrêté des dizaines de Tigréens ces dernières semaines, au moment où les rebelles ont repris le contrôle d'une grande partie du Tigré. Parmi ces détenus figurent des militants et des journalistes, dont certains ont été frappés et transportés à des centaines de kilomètres de la capitale fédérale Addis Abeba, affirme Amnesty. Selon l'ONG, beaucoup ont disparu et le nombre total de détenus pourrait se chiffrer en centaines. Les États-Unis vont expédier 25 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 en Afrique, ont annoncé vendredi à l'AFP d'euros responsables américains et africains. Les envois doivent commencer dans les jours à venir. Ce sont au total 49 pays africains qui vont recevoir des doses de Johnson & Johnson, Moderna ou de Pfizer. Premier servi, Djibouti et le Burkina Faso recevront 151 200 doses de Johnson & Johnson, tandis que l'Éthiopie recevra 453 600 doses, a précisé un responsable de l'administration Biden. Pékin a rejeté vendredi les critiques du directeur général de l'OMS sur le manque supposé de coopération de la Chine dans l'enquête sur l'origine de la pandémie de Covid-19. L'organisation fait face à une pression croissante pour une nouvelle enquête approfondie sur les origines du Covid-19 détecté à Wuhan fin 2019. En janvier, l'envoi en Chine d'une mission d'experts de l'OMS n'avait pas permis de faire toute la lumière sur le coronavirus qui a déjà fait plus de 4 millions de morts à travers le monde. À une semaine, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, la capitale japonaise n'a toujours pas le cœur à la fête. Les cas de Covid-19 continuent de grimper. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des milliers de participants, sportifs, officiels et journalistes venant de l'étranger sont soumis à des restrictions en raison des risques sanitaires. Tokyo enregistre ce vendredi plus de 1200 cas de Covid-19. 30 cas de Covid-19 sur des personnes en lien avec les JO, dont un concerne un sportif, ont été recensés. La découverte d'un foyer parmi les employés d'un hôtel de Hamamatsu accueillant l'équipe brésilienne de judo a aussi été signalée avant l'arrivée des sportifs. Thomas Barr, président du Comité international olympique, assure que les mesures anti-Covid fonctionnent. L'état d'urgence sanitaire a été remis en place lundi à Tokyo pour durer jusqu'au 22 août. Presque toutes les épreuves prévues du 23 juillet au 8 août vont se dérouler à huis clos. Thomas Barr a marqué à Hiroshima le début de la trêve olympique, censée garantir la suspension de toutes les hostilités dans le monde. Elle doit durer jusqu'au 12 septembre, soit une semaine après la fin des Jeux paralympiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le bilan des intempéries qui touchent l'Europe a atteint vendredi au moins 126 morts. La plupart des décès sont recensés en Allemagne, où les secours continuent à rechercher les personnes disparues. Le point avec Mohamedou Oumfa.
En Allemagne, de nombreux villages de l'Ouest sont affectés par ces inondations subites causées par des pluies diluviennes. Le nombre de victimes a augmenté à au moins 103 morts selon les autorités locales. Ce bilan est appelé à grimper car de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Près d'un millier de soldats ont été mobilisés pour aider aux opérations de secours et de déblaiement dans les villes et villages. En Belgique, au moins 23 personnes sont mortes selon les médias. 21 000 habitants sont privés d'électricité. L'armée a été déployée dans 4 des 10 provinces belges pour participer aux secours et notamment aux nombreuses évacuations. Il se pourrait que ces inondations soient les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues, a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. Aux Pays-Bas, plusieurs quartiers de Maastricht ont dû être évacués. En Suisse, la situation pourrait s'aggraver avec des risques de crue de plusieurs lacs et cours d'eau. Dans tous ces pays, il est tombé en 2 jours, l'équivalent de 2 mois de précipitations selon l'Organisation météorologique mondiale.
La France est solidaire dans l'épreuve traversée par l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, touchés par des inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts, a tweeté vendredi le président français Emmanuel Macron, promettant l'aide de Paris. Le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été inculpé vendredi pour prise illégale d'intérêts dans une enquête sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes activités de pénaliste, ont annoncé ses avocats. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat, ce qu'il réfute. Cette inculpation est inédite pour un ministre français de la justice en exercice. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a affirmé sur Twitter que les États-Unis ont échoué dans leurs efforts pour détruire Cuba 5 jours après des manifestations historiques contre le gouvernement qui se sont soldées par un mort, des dizaines de blessés et plus d'une centaine d'arrestations. Le président Joe Biden a dit hier jeudi envisager plusieurs choses pour aider le peuple de Cuba, un État défaillant qui opprime ses citoyens, a-t-il affirmé. Le Liban s'est réveillé vendredi avec la crainte d'une énième détérioration de la situation au lendemain du renoncement du Premier ministre désigné Saad Hariri à former un nouveau gouvernement et à quelques semaines d'une nouvelle conférence d'aide parrainée par la France. Le retrait de M. Hariri, 9 mois après sa désignation, intervient alors que le Liban traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, selon la Banque mondiale. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Claire Morin-Gibourg.
Le ministère du Pétrole et des Énergies sénégalais a annoncé que les entreprises Woodside et Petrosen démarrent la campagne de forage des puits de la phase 1 du développement du champ de Sangomar. Ecofin précise que cette installation flottante va bénéficier de 23 puits sous-marins pour une capacité de 100 000 barils par jour. La République démocratique du Congo a conclu un programme avec le FMI, première étape du décaissement d'un crédit de 1,5 milliard de dollars étalé sur 3 ans, a annoncé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le premier décaissement immédiat est l'équivalent de 217 millions de dollars, selon Gabriel Léost, représentant résident du FMI en RDC. Il y aura ensuite des décaissements successifs qui seront en lien avec ce qu'on appelle la revue du programme, c'est-à-dire des évaluations semestrielles. Au Club de Paris, une vingtaine de créanciers du Soudan ont annoncé ce vendredi qu'ils effaçaient plus de 14,1 milliards de dollars de sa dette sur un montant de créances de 23,5 milliards de dollars. Cette annonce s'inscrit dans un processus plus large sous l'égide du Fonds monétaire international, prévoyant que la dette du Soudan soit allégée de plus de 50 milliards de dollars ces prochaines années.
Nous passons directement à votre page des sports, Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. L'athlète ougandais Julius Sekitoleko a disparu après avoir manqué de se présenter à un test de dépistage du Covid-19. Selon les autorités japonaises, l'haltérophile de 20 ans est introuvable à son hôtel d'Izumisano, près d'Osaka, où il logeait avec son groupe. Le jeune athlète a été aperçu la dernière fois dans son hôtel par ses compatriotes la nuit dernière, précisent les autorités locales qui ont prévenu la police. Julius Sekitoleko était sur une liste d'attente pour les JO, mais a récemment perdu tout espoir de participer pour des raisons de quota olympique. Il devait rentrer prochainement dans son pays. Il faisait partie du premier groupe de 9 sportifs, entraîneurs et cadres ougandais arrivés au Japon mi-juin, et dont 2 membres non sportifs ont été testés positifs au coronavirus peu après. Vous l'entendez très souvent, des athlètes écartés de compétition pour dopage et qui nient avoir pris des substances interdites avant d'être blanchis par la suite. Une question, un sportif peut-il être positif lors d'un contrôle antidopage à cause d'un simple et bref contact sur la peau? Hajo Seppelt, journaliste d'investigation allemand, a tenté d'apporter des éléments de réponse à cette question.
La réponse est positive d'après le journaliste allemand qui l'affirme dans un documentaire à partir d'une expérience menée à l'université de Cologne dont le laboratoire antidopage est agréé par l'Agence mondiale antidopage. Pour tenter de trouver une réponse, une équipe de chercheurs de cette université de Cologne a recruté 12 hommes âgés de 18 à 40 ans avec une quantité suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas de risque pour leur santé. Les 12 participants ont été exposés à 4 substances dopantes par un bref contact sur la peau, la paume de la main, le dessus de la main, la nuque et le bras. Les participants ont ensuite donné des échantillons d'urine 1 heure et 6 heures après le contact, puis tous les jours jusqu'à 14 jours après le contact. Les échantillons ont révélé des traces de substances interdites chez tous les participants. Hajo Seppelt est le journaliste qui a révélé une partie du scandale de dopage dans l'athlétisme russe fin 2014.
Merci, Bagassi. Football, Nuno Espirito Santo écarte la possibilité d'un départ de son buteur Harry Kane cet été. Harry est notre joueur, point final, affirme le nouvel entraîneur de Tottenham, arrivé sur le banc des Spurs le 30 juillet, 2 mois après le licenciement de José Mourinho. Harry doit maintenant récupérer physiquement et quand il reviendra, nous aurons du temps pour discuter, a-t-il ajouté. Meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais cette saison, Harry Kane est régulièrement annoncé sur le départ. Formé à Tottenham, il n'a pas encore remporté de trophée.
C'était les sports préparés par Yakuba Ouedraogo.
aujourd'hui VOA Afrique.
À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, qui s'est montré sur le terrain pour la première fois depuis le début des troubles le 9 juillet, a déclaré depuis Durban, le grand port du KwaZulu-Natal, que les initiateurs de ces violences seraient poursuivis. Ces incidents ont éclaté dans le KwaZulu-Natal au lendemain de l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma. Marius Murunga a joint au téléphone Isaac Nkongolo, un habitant de Johannesburg.
J'ai essayé de faire un petit tour personnellement là-bas. J'ai vu, bien que la présence militaire est là et la police, mais les gens ouverts, ils sont en train de vaquer progressivement à leurs activités. Quand bien même les gens sont en train d'ouvrir, mais dans des zones où le pillage a été beaucoup plus vu, il y a des difficultés même d'ouvrir parce qu'il n'y a plus rien, tout a été brûlé et il y a même pénurie alimentaire qui va s'annoncer dans les prochains jours qui arrivent, et voire même le problème de carburant qui s'exposeront parce qu'il n'y a plus de fourniture.
On a également parlé des militaires qui sont venus en renfort à la police. Est-ce qu'on peut les voir partout?
Les militaires sont dans des endroits très spécifiques et précis, là où il y a l'exposition. Bon, généralement ici, on les appelle les townships. C'est là où s'est passé beaucoup de désordres. Alors les militaires sont beaucoup plus focalisés dans ces zones-là.
Quand on parle de pillage, est-ce qu'il y a des magasins qui sont spécifiquement visés?
Ce sont de boutiques, que ce soit des étrangers ou de natifs sud-africains qui sont vandalisés, qui sont pillés, voire même des boutiques des les grandes boutiques de blanc ou les grandes maisons de blanc sont aussi vandalisées. À l'instar, je peux même énumérer Shoprite, si vous me permettez. Ce sont des boutiques de grands investisseurs ici en Afrique du Sud. Ils n'ont pas choisi. Alors, tout ce qui s'est retrouvé sur leur chemin, alors, ils le bousillent.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit que les violences ont été préparées et orchestrées. Vous qui êtes sur place, est-ce qu'il y a des raisons de croire à cela?
Exactement, oui. Il y a des raisons. D'ailleurs, j'aimerais confirmer avec vous ici que ces activités-là ne devaient pas se passer normalement contre les boutiques sud-africaines, mais c'était une xénophobie qui s'est préparée déjà. C'était suite à la pauvreté, à la souffrance, à la faim et aux mesures que les autorités ont prises concernant le Covid-19. Alors la population avait déjà faim et ils préparaient déjà une xénophobie pour attaquer les étrangers et leurs biens afin de pouvoir avoir quelque chose à manger dans leur maison. L'affaire de Zuma est venue juste pour stimuler quelque chose qui était déjà là. Voilà pourquoi ils ont saisi l'occasion pour faire ce qu'ils ont déjà préparé.
Les commerçants sur place, est-ce que vous pouvez voir comment ils font pour se protéger contre ces pillages?
Si je peux le dire en termes plus clairs, c'est les sauve qui peut. Chacun essaie de se protéger personnellement, individuellement et voir comment protéger ses biens. Ceux qui étaient informés un jour avant, ils ont quand même eu le temps d'évacuer certains de leurs biens et d'autres personnes n'ont pas eu exactement le temps de pouvoir se protéger ni protéger leurs biens. Parmi les gens qui sont morts, il y a des responsables aussi de boutiques, si je peux le dire.
Isaac Nkongolo, un habitant de Johannesburg en Afrique du Sud. Au Cameroun, des responsables affirmaient que les séparatistes anglophones se déguisent en uniforme de l'armée pour infiltrer les villages et lancer des attaques. Dans un communiqué, l'armée a mis en garde les rebelles et les civils. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à Babadjou, dans l'ouest du Cameroun. Son reportage est relaté par Nathalie Barge.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, 10 hommes armés disant être des combattants séparatistes brandissent des uniformes militaires, des fusils, des munitions et des gilets pare-balles. Ils montrent une tête décapitée affirmant que c'est celle d'un soldat. L'armée camerounaise confirme qu'il s'agit d'un élément de ses troupes déployées à Babadjou, ville frontalière à la région anglophone du Nord-Ouest. Awa Fonka, gouverneur de la région de l'Ouest, dit qu'une vingtaine de séparatistes de Pinyin se sont infiltrés à Babadjou et ont attaqué les troupes gouvernementales et pillé les magasins. Monsieur Fonka affirme que 2 soldats ont été tués par des rebelles qui portaient des uniformes.
J'appelle la population de cette région à collaborer avec les forces de l'ordre pour mettre fin à ce gâchis de vies humaines. Il est terrible et regrettable que, malgré tous les appels au dialogue et à la réconciliation, des combattants séparatistes de la région du Nord-Ouest aient attaqué ce poste militaire ici à Babadjou, faisant 2 morts parmi les soldats. Les gens continuent de verser le sang de leurs compatriotes.
Les séparatistes disent être en possession de centaines d'uniformes retirés des corps de soldats qu'ils ont tués. Selon eux, certains ont été saisis dans des camps militaires attaqués dans les régions anglophones de l'Ouest. L'armée reconnaît que les rebelles ont saisi des uniformes et des armes, mais en faible quantité. Peter Ngoumoula, professeur de collège à Babadjou depuis 2 ans, dit avoir fui les combats à Bambili dans la région du Nord-Ouest.
Pour l'amour du ciel, comment seulement 2 soldats peuvent-ils être au poste frontière entre les deux régions? Nous sachons que les combattants séparatistes possèdent des armes sophistiquées. Tout devient incontrôlable et je prie que la communauté internationale intervienne et oblige les 2 parties à s'asseoir autour d'une table pour un dialogue.
Lors de sa visite mercredi, le gouverneur a précisé que 5 soldats se trouvaient au poste de contrôle de Babadjou. 3 se sont échappés, dont un blessé par balle. Monsieur Fonka a ajouté que des troupes ont été déployées dans la ville et les villages voisins pour retrouver des combattants cachés parmi les civils. Dans cette région, les séparatistes ont attaqué le village francophone de Galim à 3 reprises cette année et ont tué au moins 7 soldats. Selon les Nations Unies, ce conflit a fait plus de 3000 morts et contraint 550 000 personnes à fuir vers les régions francophones du pays ou vers le Nigeria voisin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Masih Alinejad, militante pour les droits des femmes en Iran et animatrice de l'émission de télévision tablette du service persan de la Voix de l'Amérique, a été la cible d'une tentative d'enlèvement élaborée par les autorités iraniennes, contrée par des agents fédéraux américains. Le reportage de Jesus Emen Oni, le récit signé Claire Morizibourg.
Avec sa double casquette d'animatrice de l'émission Tablette et de militante des droits des femmes, Masih Alinejad est souvent la cible de menaces et de diffamations.
J'ai appris que la République islamique avait un plan pour me kidnapper à New York, mais je n'arrive toujours pas à le croire. Il y a 8 mois, le FBI m'a prévenu que je n'étais plus en sécurité dans ma maison. J'essayais d'en rire. Je disais, je reçois des menaces de mort tous les jours.
I receive daily death threats.
Selon le FBI, ce complot a été élaboré par des agents présumés du renseignement iranien. Madame Alinejad devait être enlevée et ramenée de force en Iran. Mardi, le ministère de la Justice a officiellement inculpé 5 ressortissants iraniens pour leur implication dans cette tentative. Abbas Milani est le directeur des études iraniennes à l'université de Stanford.
Ils n'ont jamais rien fait d'aussi audacieux. Essayer de kidnapper un citoyen américain aux États-Unis, mais ils l'ont fait depuis l'Europe et depuis les Émirats Arabes Unis. Et la raison pour laquelle ils voulaient le faire, c'est parce que c'est un régime qui survit, basé sur la terreur, basé sur la peur. Et Masih Alinejad a été très virulente dans sa critique du régime iranien et a été très efficace pour essayer d'amener les gens à organiser différentes formes de résistance à ce régime.
Madame Alinejad a fui l'Iran en 2009 et possède désormais la citoyenneté américaine. L'Iran a rejeté le rapport du ministère de la Justice sur le complot d'enlèvement comme étant sans fondement.
Madame Ahlinejad a appelé à une réponse forte de l'administration Biden. Jen Psaki est l'attachée de presse de la Maison Blanche.
Nous n'avons jamais évalué l'Iran comme un bon acteur dans le monde, non seulement par ce complot visant à kidnapper une Américaine qui réside aux États-Unis, mais par leurs activités dans la région, qui nous préoccupent beaucoup. Le président a pris des mesures de représailles dans ce sens. Mais en même temps, nous voyons toujours dans l'intérêt national des États-Unis, et cet intérêt est de continuer les discussions en cours afin que nous puissions avoir une plus grande visibilité sur les progrès de l'Iran vers l'acquisition d'une arme nucléaire.
Les Nations Unies ont également condamné cette tentative présumée d'enlèvement.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Brianna Maria, fondatrice de l'agence de mannequins WeSpeak, pense que les modèles doivent refléter le monde. C'est ainsi que son agence trouve et fait la promotion d'un groupe de personnes uniques et diversifiées. Le reportage de Karina Bafradzian à Washington DC, le récit avec Rosine Munezero.
Ces dernières années, le mannequinat s'est étendu pour inclure des personnes âgées, des races et de tailles différentes. Mais pour Brianna Maria, fondatrice de l'agence WeSpeak Model, les agences n'ont toujours pas adopté suffisamment de diversité. En 2012, elle a ouvert sa propre agence, malgré un certain scepticisme.
Quand j'ai commencé WeSpeak, je me souviens très bien que j'ai reçu les commentaires d'une collègue qui m'a dit « Non, ça ne va pas marcher. Notre éventail est trop large. » Mais j'ai continué à faire ce que je faisais. Ce n'est pas une agence de grande taille. C'est un endroit où nous nous réunissons tous et célébrons les unes avec les autres.
Aujourd'hui, Brianna Maria travaille avec plus de 130 modèles de différentes morphologies, taille, sexe et race. Elle a des modèles atteints du syndrome de Down et ceux ayant des problèmes de peau. Ils ont tous trouvé leur place sur des couvertures de magazines, dans des publicités et sur des podiums, faisant ainsi une déclaration sur l'égalité et la positivité corporelle. Le mannequin Daniel Sauter, basé à Washington DC.
Avoir des modèles plus diversifiés de toutes les tailles, toutes les formes, tous les genres et toutes les races, ça commence à fleurir plus que jamais.
Les réseaux sociaux ont aidé les recruteurs à trouver des modèles nouveaux et diversifiés et le blog Instagram de Sauter l'a aidé à lancer sa carrière en 2014. Mais certains modèles plus conventionnels disent qu'ils sont maintenant critiqués et accusés de promouvoir des atteintes surréalistes. Vlada Rosliakova est l'un des mannequins russes les plus connus en Occident.
Il y a un nouveau déséquilibre. Je suis comme je suis et les gens me reprochent de mettre les autres mal à l'aise dans leur propre corps. Alors suis-je coupable d'être simplement moi-même? C'est une question complexe et chargée. Et bien sûr, j'aimerais avoir un certain équilibre.
Un autre exemple est la décision de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret d'arrêter de travailler avec ses modèles de longue date, appelés les anges. Daniel Sauter est mannequin.
Je pense qu'ils auraient dû être plus inclusifs. Ils auraient dû garder ce programme. Victoria's Secret a toujours été sexy. Et pourquoi tout le monde ne peut-il pas être sexy? Regardez Fenty par exemple, la ligne de Rihanna. Ils ont fait un travail fantastique avec toutes les tailles et tous les genres.
C'est donc une industrie en pleine mutation pour des temps qui changent.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Joselle de Morissin, Jean Léonard Sagno, Claire Michel, Claire Joseph et Lionel Nadira Gahima. Eric Manirakiza était avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine. Bon week-end.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde.